Les enjeux internationaux, Xavier Martinet.
Vous êtes sur France Culture, bienvenue et bon réveil si vous venez de nous rejoindre. Il est 6h46, bonjour Xavier Martinet.
Bonjour Dani.
Aujourd'hui, la question du premier anniversaire du débat Trump-Clinton, un débat qui a marqué les esprits car très tendu et musclé. Pour en parler de cela, mais aussi de l'actualité américaine, vous recevez James Cohen de Paris 3.
Tout à fait, oui, ce débat entre Trump et Clinton, c'était il y a presque un an. Aujourd'hui, le président américain est en Floride après le passage d'Irma. C'est l'occasion de renouer avec une popularité en chute constante. Et pourtant, quelle opposition a-t-il en face de lui ? Bonjour James Cohen.
Bonjour.
Effectivement, merci d'être venu. Professeur des universités à Paris 3, spécialisé dans les questions migratoires aussi aux États-Unis. Alors, soutenu par la Cour suprême sur la question des migrants et pressé par l'enquête sur ses liens avec la Russie, c'était la situation de Donald Trump hier. C'était parce que c'est une situation incertaine, changeante sur le plan judiciaire et politique, avec 8 premiers mois marqués par des polémiques, des défections en série et des sondage toujours plus mauvais pour un président encore appelé menteur par ses anciens opposants, Bernie Sanders et Hillary Clinton, dans leur livre de rentrée. Mais ne fait-on pas un contresens en croyant sa position si fragile ? C'est bien le Parti républicain qui tient les principales institutions, Sénat, Chambre des représentants, Cour suprême. Certains médias avaient pu au début de l'année parler de catastrophe, certains évoquaient un futur impeachment, mais on en semble assez loin. Quant aux novices de la politique, eh bien il faut reconnaître une certaine habileté à se garantir d'attaques trop directes et en tout cas à se garder les mains libres, agilité peut-être. En tout cas, presque un an après ce débat, eh bien, Donald Trump domine-t-il la vie politique des États-Unis ? Je vais relever trois faits pour commencer. James Cohen, pour je posais la question du contresens. Peut-être est-ce qu'on a fait un contresens sur la popularité encore de Donald Trump ? Trois faits, je le disais. Il a une popularité dans les sondages qui a jamais été aussi basse, autour de 36-34%, alors que Obama jamais en dessous de 40%, mais le revenu de la classe moyenne continue d'augmenter, cette classe moyenne qui était sa base, et puis il y a un certain nombre d'articles qui prédisent un avenir à une dynastie Trump, justement, en avançant que cette base de l'Amérique rurale est toujours conservée. Est-ce qu'il y a une réalité à cette lecture ?
Autrement dit, est-ce qu'il est en train de rebondir ?
Est-ce qu'il est en train de conserver sa base ? Est-ce qu'il a conservé sa base ?
Écoutez, je pense qu'il conserve une base qui tourne autour d'un tiers de la population, un tiers des personnes qui répondent au sondage, en tout cas, il essaye de temps en temps, il est connu pour avoir une capacité d'attention assez limitée et il ne suit pas de très près les affaires, d'où les complications de ses relations avec le Congrès, mais il est en train de comprendre, je pense, parce qu'il sait lire les résultats des sondages, qu'il faut essayer d'élargir. Et ce qu'il est en train de faire depuis une semaine, en entrant dans des tractations et des négociations qui vont aboutir à certaines choses avec des sénateurs démocrates.
Des négociations avec les démocrates, c'est assez surprenant, on va en reparler. Pour parler du geste politique et de ce qui vaut vis-à-vis de ces électeurs, c'est vrai qu'on aurait pu penser aussi quand même de 2017 que c'était une année marquée par une déconstruction assez méthodique, en tout cas de la politique de Barack Obama, au moins en façade, avec la réduction des mesures pro-climat, la question de la suppression de l'Obamacare, au moins c'est lancé.
Pour l'instant, c'est l'échec, hein, ils n'ont pas encore réussi.
Donc pour l'instant, est-ce qu'il aurait réussi, disons, cette déconstruction méthodique ? Est-ce que c'est juste un message envoyé à sa base ? Si on prend les deux décrets migratoires, par exemple, dont on va parler bientôt.
Écoutez, je pense qu'il y a des choses qu'il fait pour la base et donc ce qu'on appelle la base est caractérisé non seulement par ses caractéristiques socio-économiques, c'est une classe moyenne, une partie de la classe ouvrière, mais sa base n'est pas si ouvrière que ça finalement, ce qui caractérise sa base aussi, c'est son caractère très majoritairement blanc et la facilité avec laquelle il a fait passer des thèmes racistes et xénophobes. Il s'appuie beaucoup là-dessus, mais peut-être qu'il est en train de s'apercevoir que ça ne marche pas toujours. En tout cas, les négociations qu'il est en train d'entamer avec les démocrates maintenant pour pouvoir conserver d'ici 6 mois sans doute le programme DACA pour les jeunes sans papier montre que finalement être perçu comme le raciste et les xénophobes, et l'ethno-nationaliste n'est pas toujours très commode pour les sondages.
Peut-être parce que c'est vrai que c'est des questions et des décrets qui ont été très controversés, même du côté républicain, ces deux décrets migratoires. Il y en avait deux, donc un, le premier pris au début de l'année, qui interdisait l'accès au pays aux ressortissants de 7 puis 6 pays musulmans, finalement. Et puis ce deuxième concernant le DACA et ce qu'on appelle les Dreamers, les enfants de migrants illégaux qui avaient un permis de travail et de rester sur le territoire temporaire. Ce sont deux décrets qui, quand même, sont passés. Quel succès il a eu, puisqu'ils sont passés, mais ils sont passés un peu amoindris, ces décrets.
Alors, le premier décret est un décret qui a dû... si on se souvient du mois de février ou mars, je crois, déjà très tôt, il a essayé d'instituer une prohibition de voyage ou de séjour sur le territoire des États-Unis de ressortissants de 7 pays, réduit ensuite à 6, pardon. Mais des tribunaux fédéraux ont imposé des conditions et ces conditions sont maintenant telles qu'ils sont obligés maintenant d'admettre des grands-mères qui n'entraient pas dans les catégories des personnes proches qu'on pouvait admettre. Bon, bref, le décret est suivi des faits et je pense qu'en l'état actuel des choses, la Cour suprême doit se prononcer de manière un peu plus définitive et en profondeur sur ce décret d'ici quelques mois. Mais en attendant, la chose reste en l'état, légèrement amoindrie. Et le scandale, finalement, de fermer le pays à des ressortissants de pays à majorité musulmane, ce scandale est devenu un fait banal, malheureusement, pour l'instant.
Et concernant, je le disais, l'opposition, cette opposition institutionnelle à Trump, je disais qu'il y avait deux livres, celui de Sanders et de Hillary Clinton, qui sont sortis, deux livres qui présentent des attaques contre Donald Trump menteur, je le disais. Ce que vous me disiez en préparant cette émission, c'est qu'il y avait quand même une activité assez insoupçonnée, vue d'ici, de Sanders et des démocrates, en tout cas, pour essayer de reprendre la main.
La bagarre au sein du Parti démocrate reste entière, et elle ne va pas disparaître. Et déjà, les gens se profilent en vue des élections de 2018 et de 2020. Il n'y a pas encore de candidat ou de candidate pour 2020. Hillary Clinton, à mon avis, ne se représentera pas, mais elle aura son cheval dans la course. On ne sait pas encore exactement qui. Ça pourrait être quelqu'un comme Kamala Harris, sénatrice de la Californie. Mais il se passe des choses absolument étonnantes en ce moment, parce que Bernie Sanders, sans parler de son livre, qui est plus un livre programmatique qu'un livre de rentrée. Bernie Sanders vient d'annoncer qu'il y a 15 sénateurs, pas moins de 15 sénateurs, qui soutiennent sa proposition pour une refonte complète du système de santé autour de l'idée du single payer, c'est-à-dire comme avec l'État comme garant d'un système d'assurance un peu à l'européenne, à la française par exemple. C'est nouveau. Il y a un soutien populaire réel pour ce type de proposition qui fait que il y aura vraiment des luttes internes au Parti démocrate autour du contenu de ces propositions. C'est pas fini.
Et qu'il laisse entendre qu'effectivement Donald Trump aura du mal à faire appliquer le programme de déconstruction, si on peut le présenter ainsi, de la politique d'Obama. Dernier petit point, si quelque chose peut menacer Donald Trump, disons urgemment, qu'est-ce que c'est justement? Est-ce que c'est des défections du côté républicain? Est-ce que c'est une nouvelle séduction ou un regain de vigueur des démocrates? Ou est-ce que c'est cette affaire rampante d'enquête? Il y en a deux sur des liens de collusion avec la Russie pendant la campagne.
Écoutez, l'enquête sur la Russie et sur les affaires de Trump suit son cours, mais on ne sait pas exactement ce qui se passe parce que le procureur général a intérêt à garder le secret qui s'impose autour de son enquête. Ce qui est probable, c'est que même avec une enquête qui montre qu'il a trempé dans des activités et dans des contacts à la limite de la trahison, même si cela est démontré noir sur blanc, il faudrait un miracle pour que une majorité de sénateurs se prononce en faveur de l'impeachment. C'est pas même si les républicains du Sénat n'aiment pas beaucoup Trump et la majorité en tout cas essaye de jouer tactiquement avec lui et de l'utiliser pour leur fin. Et se débarrasser de lui carrément n'est peut-être pas ce qui les arrange le plus.
Bon. À suivre en tout cas. Et puis pour les prochaines échéances, j'ajoute, c'était le 10 octobre pour la décision de la Cour suprême sur la constitutionnalité de ce décret, le premier sur l'immigration. Et puis évidemment, les élections de mi-mandat en novembre 2018. On aura le temps d'en reparler. Et merci beaucoup d'être venu aujourd'hui, James Cohen. Je rappelle, professeur à l'Université Paris 3.
Merci beaucoup, James Cohen. Merci beaucoup, Xavier Martinet. Bonne journée à vous.